Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Bande à part ». Et oui, chère auditrice, c'est bel et bien une émission sur les amitiés. On a décidé de s'intéresser à ce thème car l'amitié est un objet difficile à saisir, que ce soit en histoire, en sociaux, en littérature. Pourtant, cet espace de l'intimité est aussi à interroger, car ce sont des liens précieux et surtout un espace d'attention, de respect et de confiance. Ça peut même être un mode de vie que de placer l'amitié au centre de toute relation. Il y a quelque chose de politique en fait dans ces liens qu'on noue. Ça peut être un enjeu. Il peut y avoir aussi une certaine forme d'émancipation, voire une dimension contestataire par rapport à d'autres relations humaines. Remettre l'amitié au premier plan dans nos sociétés, c'est une denrée rare dans nos univers médiatiques et culturels. Souvent, l'amitié est passée sous silence, elle est peu valorisée. Et c'est ce qui nous a poussé un petit peu à s'intéresser à ce thème, parce qu'il existe plein de modèles différents d'amis, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Dans cette spéciale amitié, la première chose, c'est peut-être de remarquer que c'est un angle mort des sciences sociales.
C'est-à-dire que c'est peu étudié ?
C'est très peu étudié, même du côté des gender studies. Hein. C'est une réalité sur laquelle on s'attarde peu. C'est souvent oublié, voire dévalorisé, d'autant plus quand il s'agit d'amitié entre femmes. Pourtant, il y a plein de mots pour définir les relations entre les gens. Et c'est ce qu'on va voir avec cette première petite liste de mots qui décrit les amis.
Acolyte.
Adelphes.
Aminche.
Allié.
Amiga.
Atome crochu.
Associé.
Alter ego.
Pestie.
Biquette.
Camarade.
Confidente.
Connaissance.
Cousine.
Collègue.
Copine.
Copinette.
Compagne.
Complice.
Commère.
Compince.
Cops.
Équipière.
Frangine.
Go.
Grosse.
Intime.
Milfa.
Pote.
Proche.
Partenaire.
Relation.
Sœur.
Sister.
Sis.
Sista.
Scrub.
Tepo.
Vieille branche.
BBF.
Merci très cher pour cette liste de mots. Est-ce que tu peux nous définir le mot amitié, d'où est-ce qu'il vient ?
Alors c'est un terme qui apparaît au XIIe siècle et qui vient plutôt du verbe amarrer, aimer. Et jusqu'au XIVe, il a vraiment le sens d'amant, voire parfois de parent ou alors de relation commerciale. Ami de compte, par exemple, qui était utilisé.
Ça persiste aussi, ami aujourd'hui. Puis en plus, c'est bien, c'est moins défini.
Oui.
Ami, IE, le E étant muet, on ne sait pas.
Ouais. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on peut utiliser le terme de belle amie, bonne amie ou petite amie pour les relations amoureuses. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va enlever la valeur érotique et sentimentale dans cette notion d'amitié. Alors c'est une émission en deux parties. D'abord vraiment on va s'intéresser aux perceptions historiques avant de voir les représentations culturelles de ces amitiés dans nos sociétés.
Remontons à l'Antiquité Camille, on sait que la notion d'amitié est centrale à cette période.
Oui, notamment chez les Grecs. C'est une force cosmique et presque un lien obligatoire. C'est vraiment une place prépondérante dans la vie en société grecque. Hein. Et souvent les amis sont même mentionnés dans les testaments. Pour Aristote, c'est le ciment de la cité politique. Donc là, voilà, il y a vraiment une dimension en plus, un enjeu politique. C'est les amitiés, hein, en grec c'est philéa, elles sont publiques et civiques et ça permet de faire communauté et de fonder une relation d'égal à égal. Donc c'est une vertu, mais qui est réservée aux hommes citoyens.
Dont les femmes sont complètement exclues, en fait.
Oui.
Voilà.
On pense évidemment à des amitiés qui ont traversé l'histoire, hein, comme Achille et Patrocle. Hein, le désespoir d'Achille quand Patrocle meurt, quoi. Alors, le seul qui va faire une petite place aux femmes dans ces histoires d'amitié, c'est Épicure. Lui fait une place aux femmes et aux esclaves, hein, parce que c'est le même statut social, presque, à l'époque. Et notamment dans son jardin philosophique, en fait, ça va être la seule école philosophique auquel les femmes vont pouvoir adhérer, parce que lui, il préfère l'amitié au sentiment amoureux, parce que ça constitue un sentiment de sécurité, de tranquillité de l'esprit.
Si on fait un bond historique au Moyen-Âge en Occident, les amitiés sont valorisées, notamment à travers la figure des chevaliers.
Oui, même si l'Église tente de faire barrage à ce type de lien qu'elle juge suspect.
Oui. Qu'est-ce qu'elle suspecte pas ?
Saint Augustin juge même païenne. Ben oui, il vaut mieux préférer l'amour de Dieu que de ton pote chevalier.
Ah ben, il est un peu extrémiste hein, quand même.
Pourtant, voilà, dans cet idéal chevaleresque, l'amitié est l'apanage du monde masculin. Ça permet d'exalter le caractère viril. Hein. Tu fais des actes guerriers et ça te permet de faire des prouesses héroïques hein, pour défendre ton pote, finalement. C'est aussi s'entraider, se rendre des services et se protéger. Donc, c'est une valeur qui est associée à l'idéal aristocratique. Ça permet d'asseoir ses privilèges, finalement, de s'allier ou de rendre service à tel ou tel autre seigneur. Ça permet aussi d'acquérir un certain prestige social, puisque plus tu as de grands seigneurs dans tes potes, mieux c'est, évidemment. Et puis aussi, il faut en faire la preuve publiquement. Donc tu vas avoir une série de gestes sociaux qui permettent d'exprimer cette amitié virile, comme proximité physique, c'est-à-dire les chevaliers peuvent se donner la main, et des déclarations enflammées.
Est-ce que tu peux nous décrire d'autres variantes de l'amitié dans ce Moyen-Âge ?
Alors là, on parlait d'amitié presque d'égal à égal entre chevaliers, mais le lien vassalique, en fait, c'est une amitié qui est asymétrique, puisqu'il y a une interdépendance entre le seigneur et son vassal. Et donc aussi, le terme amitié, au Moyen-Âge, ça peut désigner un certain nombre de relations qui ont un fondement plus ou moins juridique. Ça peut être des alliances, finalement. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à saisir. Et ce système d'alliance, tu le vois beaucoup dans tout ce qui est compagnie, guilde ou fraternité, qui vont vraiment prendre leur essor durant cette période. Il y a une autre forme aussi d'amitié qui peut être presque un lien de parenté. C'est la figure du compère et de la commère. En fait, le compérage, c'est un parrain qui remplace l'oncle maternel. Ça vient de co-père. Et il devient une sorte de parent spirituel pour l'enfant. Autre forme aussi d'amitié, hein, c'est ce qui va un petit peu influencer le fondement de la vie commune dans les communautés monacales. En fait, cette vision mystique de l'amitié, c'est ce qui prépare à l'amour divin pour certains intellectuels religieux. Là, vraiment, ils font une distinction avec l'amitié commune qui est jugée mondaine, puérile, voire charnelle. Et ça marque beaucoup le courant cistercien. Et évidemment, hein, les femmes en sont exclues. Hein, on les préfère recluses hein, pour l'Église. C'est toujours mieux.
J'ai l'impression qu'au Moyen-Âge, peut-être quelque chose qu'on aurait perdu aujourd'hui, c'est la notion de fidélité. Je vous serai fidèle, pas forcément à quelqu'un qui est son pote, mais tu vois, dans ce type d'alliance que tu nous décris, la fidélité qui est une notion, je pense, très importante à l'époque dans l'amitié.
Oui, tout à fait. Et puis c'est comme ça qu'on construit aussi des alliances et des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans ce Moyen-Âge. Hein.
On voit par contre, là, quand tu évoques toutes ces variantes de l'amitié au Moyen-Âge, que... Il y a peu de descriptions d'amitié dans les classes populaires, du peuple, chez les gueux, quoi.
Pour oui, dire. Là, c'est une question des sources, en fait. Évidemment que là aussi, ça doit exister, mais on n'a pas accès aux sources. Et donc, pour l'instant, on ne peut raconter que des histoires d'amitié qui restent cantonnées aux élites.
À la Renaissance, ça va changer.
Oui, ce qui change principalement à la Renaissance, c'est que la relation à l'ami va se déployer dans la correspondance épistolaire. Et là, on invente la relation à l'ami absent. Hein, il y a vraiment une notion d'intimisation, de développement du sentiment intime. On s'écrit beaucoup. On pense à Montaigne hein, qui nous dit quand même « parce que c'était lui, parce que c'était moi » à propos de son amitié avec la Boétie. Lui aussi, hein, Montaigne, il va mettre pratiquement plus de 10 ans de se remettre de la mort de son pote. Hein. Mmh. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Montaigne, il refuse l'amitié aux femmes. Il nous dit « la capacité des femmes n'est pas de nature à répondre à ses rapports et à cette intimité ». Pourtant, il a quand même eu une grande amitié avec l'autrice Marie de Cournet à l'époque. Et il y a eu plein comme ça d'intellectuels qui ont des échanges épistolaires amicaux avec des intellectuels de l'époque.
Allez, on les cite, Michel-Ange et Vittoria Colonna et Fénelon avec Madame de Guyon aussi. Hein, c'est intéressant. Hein. Du coup, ces postures où on dénigre ça, mais on a quand même des amis.
Oui.
Et d'ailleurs, tu continues sur ces histoires de correspondance, il y en a des célèbres.
Oui, c'est surtout au 18e où là, ça va, c'est l'âge d'or finalement de la correspondance épistolaire. Et ça devient le lieu privilégié dans les pratiques amicales. Ça permet de partager la même manière de voir et de penser. Et c'est même un terreau de sociabilité politique. On est en plein 18e, siècle des Lumières, etc. la rupture amicale entre Rousseau et Diderot, elle se fait par lettre. Et c'est vraiment hyper violent hein, ce qui s'envoie à travers cette correspondance, quoi. Alors, dans les grandes correspondances amicales célèbres, et on voit bien ce terreau de sociabilité politique, on pense à Diderot avec Sophie Volant, Voltaire avec Madame du Châtelet, D'Alembert avec Julie Lespinasse, qui sont toutes de grandes femmes scientifiques de l'époque. L'ami, ça devient le témoin moral intérieur au XVIIIe.
En fait, il faut qu'il y ait une complicité des idées. L'amitié, elle n'est plus fondée parce qu'on fréquente le même lieu ou parce que le quotidien fait qu'on se côtoie. C'est d'un coup, est-ce qu'on a les mêmes idées sur la liberté des citoyens ?
C'est exactement ça. On va rejeter tous les aspects utiles de l'amitié. Là, on s'élève, on est sur quelque chose qui doit élever l'esprit. C'est assez étrange parce que c'est au même moment où l'amitié va commencer à disparaître des textes. C'est comme si elle se repliait sur ses échanges épistolaires. On semble, les valeurs sociables commencent à s'évanouir, elle est même dépréciée hein, par certains auteurs, comme Corneille par exemple.
L'amitié c'est toujours très important, mais quand on est jeune on a l'impression que ça prend aussi une place peut-être encore plus grande. Alors, du point de vue historique, qu'est-ce que ça donne ?
Oui, alors dans cette fin du 18e, début 19e, dans cette période romantique, l'amitié va devenir constitutive de la jeunesse et de l'adolescence. Parce que c'est un moyen aussi d'apprendre et d'acquérir les connaissances de son futur rôle social dans l'aristocratie et la bourgeoisie montante. En fait, on a le loisir d'être ami en construisant sa sphère. En fait, sa sphère, son boys club. Hein, parce que là, on parle d'amitié des petits messieurs qui fréquentent les collèges et les lycées. Et eux aussi, ils vont beaucoup s'écrire. Tu te doutes bien qu'on surveille ces amitiés masculines.
Oui.
Notamment dans les collèges et les lycées, même si on pratiquait aussi ce qu'on appelait le chatage ou la chatterie, c'est-à-dire le tutorat d'un élève plus âgé.
En campagne, dans la ruralité, ça se passait comment ?
Mais c'est la même chose. On a des présences d'abbayes de jeunesse ou de sociétés de jeunesse pour les jeunes mâles, hein, je précise. Attention. Au XIXe siècle, du côté des ouvriers, c'est la même chose. On va mettre en place le principe du compagnonnage pour les apprentis. Et plus on va approcher du XXe siècle, plus on va assister à la multiplication de ces associations pour les jeunes. Hein. Ça va prendre la forme du scoutisme laïque ou pas, des auberges de jeunesse, etc. C'est un moyen aussi de s'affirmer en politique, notamment chez les ouvriers. Du coup, cette jeunesse populaire en bande, va souvent être perçue comme une menace à la fin du XIXe siècle. Et là aussi, on surveille comme dans les internats.
Oui, donc qu'on soit religieux ou laïque, finalement, on crée des institutions qui vont quand même favoriser un peu les amitiés.
Oui, et au XIXe siècle, au même moment, on assiste aussi à ce développement d'une sociabilité unisexe. C'est-à-dire que le bourgeois a le loisir de disposer de son temps et surtout a accès à l'espace public. Donc là va se développer, notamment dans la vie de bohème, une camaraderie qui va devenir essentielle. Hein. C'est l'idéal d'action de la convivialité gaillarde. Hein. On pense à la correspondance, tiens, on continue avec nos histoires de correspondance. Et la correspondance de Flaubert avec ses amitiés un peu garçonnières, où il raconte ses branlettes avec des propos scato, il appelle ses potes « mon vieux pédéraste ». Voilà. Mais par contre, tabou de la tendresse. Ah. On ne parle pas de gestes doux.
Ouais.
Mais voilà, c'est une amitié à grands coups de tape dans le dos un peu. Hein.
Ouais. On s'encule, mais sèchement. Quoi.
Ben oui, ben on va s'écouter l'impératrice, la peur des filles.
En transition.
Faut toujours peser ses mots, désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tous en montée la menace. Tu dis ça, t'es pas macho, mais c'est pas des gens comme il faut.
C'était l'impératrice, la peur des filles, et vous écoutez Cosette de Boudoir qui fait bande à part pour cette émission sur l'amitié.
Camille, on a évoqué principalement les amitiés masculines, qu'en est-il pour les femmes ?
Alors, l'histoire de l'amitié féminine a été entravée et occultée par une histoire écrite par et pour les hommes. En fait, souvent, l'amitié féminine à travers l'histoire a été jugée comme des relations qui n'iraient nulle part, des pertes de temps, des babillages inintéressants. Et ces clichés, en fait, ont empêché la prise en compte et la transmission de sources directes des liens que les femmes entretenaient entre elles. En fait, on a vraiment un manque de tradition narrative dans les amitiés féminines. Et ça, Virginia Woolf, dès le début du XXe, elle le remarque. On le sait, hein, pourtant, ça transparaît parfois dans les correspondances entre religieuses. Hildegarde de Bingen a énormément écrit à sa meilleure amie qui s'appelle Richardis, hein, qui est une religieuse aussi qui l'assiste dans ses travaux. Et c'est le frère de Richardis, archevêque de Brême, qui va éloigner sa sœur au monastère de Saxe, où elle meurt un an plus tard, parce qu'il trouve ça tendancieux, cette amitié avec Hildegarde de Bingen.
Il y a aussi des amitiés qui sont vues comme telles, alors qu'elles vont peut-être un peu au-delà, notamment Emily Dickinson avec Suzanne Gilbert ou Charlotte Brontë avec Hélène Nesset.
Oui, on ne sait pas trop si c'est des amitiés romantiques ou si c'est des formes d'euphémisme pour des amours lesbiens. Mais en tout cas, on a une riche correspondance épistolaire entre les femmes au XVIIIe et au XIXe dans les sociétés occidentales, en France, États-Unis, Angleterre, Allemagne. Et là, on voit bien ces amitiés passionnée, et c'est surtout cet échange épistolaire permet aux femmes d'avoir des échanges intellectuels et sentimentaux et de développer aussi des codes d'expression. Alors, tu parlais de Charlotte Brontë, d'Emily Dickinson, hein, mais on va aller moins loin. Et j'ai trouvé un petit exemple beaucoup plus proche de chez nous. Je pense à Eugénie de Guérin, qui est issue d'une famille de petites aristocrates désargentées du Tarn, et elle aussi a vu des amitiés féminines passionnées. Elle va tisser des liens avec toute la gentry locale du Kaila,
oh yes.
Notamment avec Louise de Bayne, où le vocabulaire, parce qu'elle est très catho, hein, Eugénie, mais tu vas voir dans son courrier une sorte de mélange entre un vocabulaire religieux et une rhétorique amoureuse. Par exemple, elle dit « Je meurs de faim de vos lettres » le 27 octobre 1832. Toujours à Louise, elle lui dit « La jouissance de vous lire ne me donne pas de remords » le 10 juin 1833. Ou encore « Je déjeunerai de vos tendresses » le 26 juin 1934. et « Afin vous résister m'est impossible » le 25 novembre 1834. Alors cette correspondance entre femmes, elle va fortement diminuer à partir de l'après-Première Guerre mondiale. On le verra parce qu'il y a aussi un repli sur le foyer.
C'est une belle phrase, mais est-ce que tu as trouvé d'autres sources qui nous montrent ces amitiés entre filles ?
Les journaux intimes, qui sont une source historique très, très forte pour retracer ces amitiés entre femmes. Et c'est par exemple Michel Perrault, l'historienne, qui va récupérer le journal de Caroline B. en 1985 et qui va ainsi mener une enquête historique qui s'appuie sur ce carnet intime et qui va permettre de retracer toutes les amitiés de cette jeune femme du Faubourg Saint-Germain au 19e. Et tu vas nous en lire un petit extrait.
Lundi 28 novembre 1864. Nous avons passé de bonnes heures, Marguerite de Fontange et moi. Que de choses à nous dire depuis tant de mois. Mais comme elle est devenue raisonnable et sérieuse, j'en suis stupéfaite. Malgré tout, elle est encore gaie et folle même. Que de bêtises nous avons dites toutes deux. J'avais beau l'embrasser, elle n'était pas généralement disposée à me les rendre. Aussi, je lui ai fait une guerre à mort. Mais entre amis, les balles sont des fleurs. Nous avons bien ri et causé, et je ne l'ai quitté qu'à 5 heures, désolée d'être obligée de partir. Madame de Fontange a eu l'extrême gracieuseté de me demander de venir dîner demain, mais à mon grand regret, il m'a fallu refuser car nous sommes attendus chez ma tante. Bien vite, je suis allée chez Diane, à qui j'avais promis hier de venir. J'ai eu aussi un vif plaisir à la revoir, elle est si gentille et si affectueuse. Mais, hélas, que le monde a déjà de prise sur elle. Heureusement, elle est intendante du catéchisme, et le bon Dieu la protégera contre les écueils multipliés qui l'entourent.
Caroline B., donc elle fait partie de la paroisse de Saint-Clotilde et même d'une confrérie des enfants de Marie. Donc c'est pour ça que le côté catho est très présent.
Et du coup, c'est toujours très ambigu quand même, on ne sait jamais...
Oui,
ce qu'elle fait avec ses amis, en fait.
Oui, elle ne veut pas se faire embrasser, l'autre...
Mais elle veut bien, enfin... Ouais.
Alors là, on peut vraiment cartographier les amitiés de Caroline, on va l'appeler Caroline, maintenant qu'on la connaît bien. Donc on a Marie Thervaux, qui est sa cousine, Thérèse de Brinda, qui est vraiment sa best friend, son amie de cœur. Et après, on a Marguerite de Fontange, qui est citée dans la lettre, et Stéphanie Dumont, qui sont plutôt ses amies. Moins, voilà, une petite hiérarchie. Et enfin, Madame Loupeau, qui était sa dame de compagnie. Donc, elle est quand même super bien entourée, Caroline. L'autre support aussi, l'autre source pour retracer ses amitiés, ce sont les albums d'amitié qu'on va retrouver aux États-Unis au 19e siècle. Donc, ces albums, ils circulent de femme en femme et ils sont remplis de poèmes affectueux. Donc, on voit bien cette proximité émotionnelle. Là aussi, souvent qualifiée d'amitié romantique.
Mais on ne connaît pas ça dans la vieille Europe à ce moment-là.
Non, c'est vraiment américain, ces albums d'amitié. Moi, quand j'ai lu quelques descriptions, ça m'a fait penser à nos agendas des années 90, où on s'écrit des petits mots. C'est un peu ce principe-là. Ces albums fournissaient aux femmes une certaine attention, affection et des échanges intellectuels et politiques.
Si on continue de décliner l'amitié, il y a des formes d'alliances qui sont malgré tout un peu ambiguës, qu'on va qualifier d'amicales, mais qui sont plutôt des alliances.
Des alliances, voire des formes de sociabilité ou des moyens d'apprendre des sociabilités plus tard. Au XVIe siècle, les riches femmes d'Angleterre passent beaucoup de temps ensemble, elles jouent, elles discutent, elles se rendent visites et elles commencent à mettre en place ces premiers rituels. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que naît le terme « gossip ». Et c'est aussi un moyen d'apprendre le rôle qu'elles auront plus tard, c'est-à-dire tenir des salons, etc. Et donc, de ce fait, c'est pas toujours des liens de solidarité entre elles. Alors, ce développement de toute une série de pratiques, de gestes amicaux, ou de gestes qui permettent de prouver l'amitié, on va le retrouver aussi chez les jeunes filles, chez les adolescentes, avec des rendez-vous secrets, des correspondances, des petits mots, voire même de la cryptographie, puisque ces amitiés entre jeunes filles, là aussi, sont très très surveillées dans les différents couvents ou les premiers lycées. Il y a même des médecins au 19e qui déconseillent ces amitiés entre femmes. C'est aussi un savoir-faire de l'intime qui va se diffuser dans la bourgeoisie. En fait, c'est ce qu'on disait, ça peut être aussi un moyen de construire l'entre-soi des sociabilités bourgeoises. C'est George Sand qui nous raconte un petit peu ces petits mots et ces petites correspondances qui circulent entre les jeunes femmes dans ces couvents.
On avait au couvent l'enfantine et plaisante habitude d'établir et de respecter le classement de ses amitiés. Ainsi, l'on dressait la liste de ses relations plus ou moins intimes, on les classait par ordre et les initiales des 4 ou 5 noms préférés étaient comme une devise qu'on lisait sur les cahiers, sur les murs, sur les couvercles des pupitres. Quand on avait donné la première place, on n'avait pas le droit de la reprendre pour la reprendre. L'ancienneté faisait loi. Chacune, ayant quelques logographes du même genre, faisait présumer à la maîtresse que nous avions un langage de convention et qu'à l'aide de ce langage, nous conspirions contre son autorité. Mais elle interrogeait vainement. On lui disait que c'était des lettres jetées au hasard pour essayer les plumes. Panda Part, une émission sur l'amitié par Cosette de Boudoir.
Donc on a presque une description un petit peu sociologique ou anthropologique hein, que mène George Sand dans ce couvent. Hein. Et George Sand, hein, c'est quelqu'une qui aura aussi de très longues amitiés avec de nombreux intellectuels et artistes de l'époque.
Toujours dans ce milieu un peu bourgeois, dans les classes populaires, comment ça se passe ?
Alors on a des études hein, qui mettent en avant, même en lumière, des groupements solidaires de femmes, hein, du peuple, hein, sur les marchés, dans les rues, près du lavoir. Certaines historiennes qualifient ça même de féminisme pratique. Ça donne naissance véritablement à des réseaux de solidarité. Si on s'arrête un petit peu sur le lavoir, qui est quand même le lieu de sociabilité féminine, sous le Second Empire, les autorités vont même compartimenter ces lavoirs pour éviter les bavardages et éviter ces réseaux de solidarité. Vu les tollés, les protestations de femmes, ça prend pas. Hein. Elles s'opposent à cette compartimentation. Certaines militantes, hein, comme Flora Tristan, vont avoir vraiment des relations d'amitié qui vont lui permettre d'asseoir son socialisme et de l'expérimenter. On sait qu'elle avait une grande amitié avec Marceline Desbordes, avec Pauline Roland et surtout avec Éléonore Blanc, qui était une blanchisseuse qu'elle avait rencontrée à Lyon. Et en fait, ces relations d'amitié aident à s'émanciper aussi à l'époque.
Après, le socialisme arrive, là on est dans d'autres formes amicales aussi. Donc il y a un vrai tournant comme ça à la fin du 19e siècle, on peut le dire comme ça.
Oui, il y a un vrai tournant à la fin du 19e siècle, notamment parce qu'arrive aussi le mariage d'amour qui va reléguer l'amitié dans la hiérarchie des relations sociales.
Et des sentiments en fait.
Oui, c'est-à-dire que l'exaltation de l'union amoureuse hétéro permet de maintenir les femmes dans le giron du foyer. Donc, on va décrédibiliser toutes les formes d'amitié. Hein. Mmh. Parce que ces amitiés, notamment entre femmes, sont perçues comme des menaces à l'ordre conjugal qu'il faut contenir, en fait. Elles sont rattachées à l'enfance, à la jeunesse. Donc là, vraiment, la psychanalyse va pas mal saper hein, les fondements de ces amitiés. Elles ne doivent pas être trop intenses. On va même aller jusqu'à les pathologiser aux États-Unis parce qu'elles vont être rangées dans la catégorie déviance associée à la menace du penchant lesbien, évidemment. Mmh. C'est pour ça qu'on surveille ces amitiés trop fortes entre filles. En fait, voilà, il y a toujours ce soupçon de lesbianisme s'il y a une amitié trop forte entre les femmes. Comme si on ne pouvait pas créer des liens profonds hors mariage et hors amour romantique ou sexualité.
Dans le XXe siècle, on ne se marie pas par amour. Du coup, on se marie par amour et donc on dévalorise d'autres sentiments qu'on trouvait ailleurs avant, en fait.
C'est ça. Et puis, parfois aussi, les amours lesbiens ont été cachés hein, par, on l'avait vu, hein, le terme de « bonne amie ». Pour pas dire
clairement les choses.
Pour pas dire clairement les choses. En gros, t'as l'impression que en fait, les femmes sont toujours un peu perdantes hein, dans les relations sociales.
Cosette de Boudoir présente Panda Part, une émission sur l'amitié.
Et tout au long du XXe siècle, en fait, ces amitiés vont être dévalorisées parce qu'on est de plus en plus dans l'intimité qui se resserre autour de la notion de foyer à partir des années 50. Ça devient presque un privilège masculin que de nouer des relations sociales à l'extérieur de la famille. Et jusque dans les années 70, le sujet de l'amitié féminine n'attire que peu d'attention. Comme on l'a vu, elle est systématiquement ignorée, dénigrée, rendue triviale dans les traditions des sciences sociales.
Cheguei na festa, já tava a milhão. Te catei de longe, com um copão na mão. Olhou pra mim, jogando esse bundão. Não me olha assim, que eu morro de tesão. Eu só me lembro dos nudes na DM. Pique Mr. M foi fazendo a minha mente. Aqui tá quente, tá gostosinho. Te passei um fino e falei no teu ouvido. Vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, vem de boca, vai, bota, vem de boca e vai, bora, vem de boca e vai, bota, vem de boca, ah, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, vem de boca, vai, bota, vem de boca e vai, bora, vem de boca e vai, bota, vem de boca. Raça demais, eu bolando o crush, queimando verde. Acendi a chama, ela sabe o que faz, ela é perigosa. Yeah, eu quero bem mais, aceita a proposta. Yeah, ela é golpe demais. Yeah, bitch, eu chupo a sua chata. Não me importa qual a hora, você tá que ela me joga. É que eu não vou negar, bitch, eu chupo a sua chata. Não me importa qual a hora, você tá que ela me joga. É que eu não vou negar. Você tá bandida, não espalha pra sua amiga. Se soubesse, da larica, se soubesse. Você tá bandida, não me espalha pra sua amiga. Se soubesse, da larica, se soubesse. Você tá bandida, não me espalha pra sua amiga. Se soubesse, da larica, brota de farol, espalha. Pede mesmo atenção, ela joga na minha cara. Pede mesmo atenção, ela joga na minha cara. Você tá bandida, não me espalha pra sua amiga. Se soubesse, da larica, brota de farol, espalha. Pede mesmo atenção, ela joga na minha cara. De mesmo atenção, ela joga na minha cara.
Vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, vem de boca, vai, bota, vem de boca e vai, bora, vem de boca e vai, bota, vem de boca,
vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, bota, vem de boca, vai, vem de boca, vai, bota, vem de boca e vai, bora, vem de boca e vai, bota, vem de boca, vai.
C'était Batsista avec le morceau Bandida et Cosette de Boudoir continue de faire bande à part.
Si on s'intéresse à la pop culture, quelle représentation elle nous donne des amitiés ?
Eh bien, dans la fiction, les amitiés sont peu représentées. En fait, c'est souvent l'amour hétéro qui est au centre des intrigues. En fait, de la littérature classique en passant par les dessins animés jusqu'à la pop culture, les liens amicaux sont souvent invisibilisés, voire déclassés. Ils sont jugés comme secondaires, donc peu dignes d'intérêt. Ils sont souvent en arrière-plan du scénario. Et d'ailleurs, dans les dessins animés, les histoires d'amitié sont souvent portées par des personnages animaliers. En fait, Rocks et Rookies, voilà. T'as pas avec des vrais humains des histoires d'amitié. Autre cliché, c'est ces amitiés filles-garçons-femmes-hommes qui sont un prétexte pour déboucher sur une relation amoureuse. En fait, comme si l'amitié, c'était une relation qui permettait de préparer à la seule relation valable le couple amoureux.
Bah, tu le vois bien, quand t'es avec tes amis qui sont de sexe masculin, les gens pensent que t'es en couple avec eux.
Oui, c'est ça. C'est comme si l'amitié, comme si on ne pouvait pas envisager une relation femme-homme en dehors d'un rapport de séduction, en fait. C'est toujours, on colle toujours un script hétéro aux relations mixtes, mais même dès le plus jeune âge dans nos sociétés.
Et chez les enfants, on le tolère et on dit plus tard, on vous mariera. Donc, tu vois, c'est comme si là, ça va, vous pouvez jouer, mais plus tard, adulte, il n'y aura plus d'amitié, en fait.
Une des seules représentations mixtes que tu vas trouver dans la pop culture, c'est la figure de la fille hétéro avec son meilleur pote gay.
Oui, mais là aussi, ça dit quelque chose, voilà, c'était patriarcal. Quoi.
Ouais. Alors, certains ont même inventé un terme, la friend zone, qui est une sorte de synonyme d'humiliation et d'attaque à la virilité du garçon en question. En fait, c'est une expression d'ailleurs qui est souvent employée par des hommes hétéros. En fait, c'est que l'amitié avec une femme, ça n'a pas de valeur et ça doit servir autre chose. Alors, du coup, les féministes, elles ont créé un autre mot pour faire face à la friend zone, c'est fuckzoner. C'est-à-dire que quand tu fuckzones, c'est que tu interagis uniquement avec quelqu'un dans le but de coucher avec il ou elle. Et que tu ne t'intéresses pas à une personne.
Pour son quotient intellectuel.
Voilà, tu t'intéresses qu'à sa fonction sexuelle. Alors, on va avoir quand même quelques représentations d'amitié entre garçons. C'est ce qu'on appelle la bromance. C'est ces relations égalitaires très soudées, très fondées dans la réciprocité, sans s'exposer à une réprobation sociale, ni porter atteinte aux mœurs patriarcales et à l'institution du mariage hétéro. Mais à partir de l'âge de la puberté, ça peut être aussi soupçonné d'une homosexualité latente. Il faut quand même apprendre les codes de la virilité où l'amitié trop intime n'a pas sa place. Et moi, je pensais à un film qui s'appelle Close, où on a deux jeunes qui s'appellent Léo et Rémi, et qui vraiment ont une relation amicale très intense depuis qu'ils sont petits. Et au moment où ils passent au collège, en fait, cette amitié entre eux va être remise en question parce qu'on les soupçonne d'homosexualité. Donc ça a des conséquences, tout ça dans l'apprentissage. Ça fait que plus tard, à l'âge adulte, les hommes ont moins d'amis et restent sur des relations en surface. On dit souvent que les amitiés entre hommes, c'est des amitiés côte à côte et pas face à face. Ces amitiés, voilà, côte à côte, on va aller boire une bière, on va aller regarder un match, voilà. Mais face à face, on ne discute pas vraiment des choses.
Pas de soirée pyjama pour les garçons ?
Non. Pourtant, l'entre-soi des hommes est une non-mixité bien vaste, mais on ne leur permet pas, ou ils ne se permettent pas, d'entretenir des relations trop intimes entre eux. Alors, à l'inverse, les amitiés féminines, elles sont pétries de stéréotypes lorsqu'elles sont représentées. Souvent, elles sont limitées à la sphère privée. Et là aussi, c'est un moyen d'attendre la vie en couple hétéro. Une chercheuse qui s'est amusée à catégoriser les films sur les amitiés, par genre un petit peu. Et donc, elle dit, il y a des films d'amitié sentimentale, films d'amitié politique, films d'amitié érotique avec un sous-texte lesbien. Et puis, elle dit aussi, il y a des films d'amitié entre femmes racisées et des films anti-amitié féminine aussi. Il va falloir attendre les années 90 pour qu'on ait plus d'héroïnes qui soient représentées et qui vivent des amitiés féminines, que ce soit dans les films ou dans les séries. Et c'est assez nouveau, ça, dans les arcs narratifs à ce moment-là.
Je trouve qu'il y a des films des années 60, 70, de la Nouvelle Vague par exemple, mais dont, que l'histoire a complètement oublié, qui sont des vraies pépites. J'en profite pour les citer rapidement. Il y a Brigitte et Brigitte de Luc Moulet par exemple, et Adieu Philippine, qui montrent des amitiés entre filles. Elles arrivent à la fac, il n'est ni question de concurrence, parce que ce sont des amitiés très gratuites. Et justement, je pense que ça venait de la volonté de montrer d'autres récits en fait. Parce que ces clichés, comme tu dis, on les retrouve trop souvent. Enfin...
Ouais, alors on va se les énumérer rapidement, ces clichés. Alors souvent, c'est le lien qui se noue entre deux femmes, c'est pour s'intégrer socialement ou accepter la structure sociale. Ça ne leur permet pas d'accéder au pouvoir ou à s'élever dans la société comme certaines amitiés masculines qui sont représentées. Ces amitiés féminines, elles sont souvent représentées dans des espaces intimes. C'est la chambre, le lit où on pleure à côté de sa pote. Mais il faut se méfier parce que parfois la chambre, ce n'est pas qu'un espace d'enfermement. Ça peut être aussi un lieu de libération ou de transgression. Je pense au film Papicha où elles sont dans la piole et elles font la fête, elles se marrent, etc.
Ça t'a rappelé sur Benny B.
Oui, c'est exactement ça. Ça peut être aussi un espace sécurisant pour construire son identité. On a aussi le cliché en fait, de la copine qui vient pleurer parce que ça ne va pas avec son mec dans les représentations dans les espaces de cuisine.
C'est vraiment ça, de faire le centre d'une amitié entre filles, des problèmes de couple en fait.
Oui, là c'est pas rendre...
Genre il n'y a que ça qui les unit. En fait, j'ai des problèmes avec mon mec, qu'est-ce que t'en penses?
Ben non. Ben, c'est aussi la fameuse sortie shopping, comme s'il n'y avait que ça qui les unissait. Une forme de consumérisme quoi. Ben non.
Ouais. C'est comme les séries américaines qui véhiculent ça énormément, non ?
Oui, après, des fois, il y a des moments aussi où tu peux avoir des scènes qu'on peut rattacher à un univers très féminin, comme des scènes de maquillage ou des choses comme ça, mais là, qui peuvent être émancipatrices dans des nouvelles séries. Je pense à Euphoria, où il y a une scène de maquillage entre deux copines, et c'est un moyen aussi d'affirmer son expression de genre, etc.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents.
Elle voit bien les choses, Anne Sylvestre, quand même, et elle les chante bien. Toute rivale, c'est ça aussi,
c'est peut-être le plus gros cliché des amitiés, enfin des non-amitiés féminines, du coup. En fait, voilà, souvent dans la pop culture, et même dans la littérature et dans la culture plus classique, hein, on véhicule cette idée d'un rapport de compétition entre femmes. C'est vraiment une composante du sexisme. Hein. On appelle ça une sorte de reste du marché matrimonial, hein, ou si je te le dis façon dépente, le marché de la bonne meuf.
Toutes celles qui ne font pas partie du marché de la bonne meuf, oui.
Et ça, c'est un obstacle majeur à la constitution de relations amicales, voire sororales, en fait. Cette concurrence entre femmes, c'est un outil bien huilé du patriarcat qu'on va retrouver dans de nombreuses séries ou de la télé-réalité, voire même des livres, je pense à L'ami prodigieuse, où tu dis avec un tel titre, ça va être un super bouquin sur les amitiés. Et en fait, les deux personnages principaux, elles sont quand même pas mal rivales tout au long du bouquin.
Et là, c'est peut-être aux femmes aussi, faut s'interroger justement sur ce type de lien qu'on développe, ce type de rivalité.
Oui, et ces liens de compétition, ils commencent très tôt, hein. Notamment, il y a des études en sociologie qui montrent que dès l'adolescence, en fait, il y a cette mise en conformité de genre, hein, et du coup, une sorte de surveillance intra-féminine. C'est la figure de la salope, de la pute, hein, celle qui se fait éjecter du groupe de filles parce qu'elle ne correspond pas aux normes qu'on attend des femmes. Et ça empêche, en fait, toute émancipation collective. Ça peut être aussi le syndrome de la schtroumpfette, c'est-à-dire la fille qui existe uniquement dans ses relations avec les garçons, qui font l'histoire, qui définissent le groupe, etc. C'est cette fameuse revendication de ne pas être comme les autres filles, c'est celle qui se distingue, celle qui traîne avec les garçons, celle qui n'aime pas les filles. Alors, certes, c'est un moyen d'exister et de se dégager en fait des stéréotypes et du poids de ces stéréotypes, mais il faut faire attention parce que ça peut aussi entretenir ces stéréotypes sexistes pour se faire valider, en fait.
Et l'autre cliché qu'on retrouve aussi, c'est l'amitié et les femmes dangereuses, en fait. Celles qui sont amies, ce sont des femmes dangereuses.
Oui, souvent, l'amitié montrée comme une force est mêlée au meurtre, au suicide et au danger. Donc, c'est une forme d'apocalypse intime qui fait peur aux hommes. Là, on pense à Thelma et Louise, en fait, où elle s'allie pour buter des mecs. Et ça fait peur, en fait, cette monstruosité d'une amitié entre femmes. Et tu sens la lesbophobie sous-jacente. C'est comme si elles allaient trop remettre en question ce monde patriarcal, voire l'ébranler. On a parlé de Thelma et Louise, mais moi je pense surtout à Baise-moi de Virginie Despentes, qu'on citait un peu plus haut dans cette émission, où là, Nadine et Manu, en fait, elles vont devenir amies parce qu'elles ont un projet.
Aussi. Un petit projet, voilà. Tu peux te dire comme ça. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas lu, pour une fois, tu spoil pas.
Voilà, tu vois, j'ai fait d'un effort.
Elle se sent bien avec la petite. Elle n'est pas forcée de faire attention. Mais elle a honte de dire franchement qu'elle voudrait rester avec elle. Parce que la petite a l'air de savoir où elle va et de n'avoir besoin de personne pour bien rigoler. Manu crache de côté. Bah viens à l'hôtel avec moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça serait dommage qu'on s'arrête en si bon chemin. Cette fois, tout se passerait comme Nadine en a envie. Elle n'aurait pas à se contenter de ce qui se passe en évitant de se plaindre. Pour cette fois, tout se passerait très simplement. Pas de raison qu'elle s'arrête en si bon chemin.
Allez, raconte-nous la fin.
Non, je raconte pas la fin. Je voulais juste faire un parallèle entre entre Thelma et Louise et Baise-moi de Virginie Despentes, c'est qu'on a aussi donc une alliance, un duo féminin dangereux et cette idée de road movie aussi.
Oui.
Et ça, je trouve ça intéressant aussi de, par rapport à l'espace, l'espace public, etc. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est chercher des représentations plus diversifiées, notamment sur les représentations des amitiés entre femmes racisées, pour éviter là aussi un des clichés de la meilleure amie noire qui est un petit peu faire valoir dans certaines séries ou au film Teenager. Et voir ces amitiés vraiment comme des zones de confort, comme aussi un moyen de faire face à des oppressions, voire à de la violence. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot.
Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge?
Yeah.
Yo, you wanna meet me in the club?
Yeah.
Yo, you wanna meet me downtown?
Okay.
Yo, you wanna meet me in the east?
Yeah.
Yo, you wanna meet me in the west?
Yeah.
Yo, you wanna meet me on the block?
Yeah.
Yo, you wanna meet me at the spot?
Okay. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot.
That's the way it is. That's the way it goes. It's just us two. It's deja vu. It's what we know. That's the way we like it. Don't complicate. No need to fight it. Just invite it.
Sophie Tucker, best friend dans Cosette de Boudoir, une émission qui fait bande à part sur les amitiés féminines. Et maintenant Camille, on se rapproche de la fin de l'émission, il faut que tu nous dises pourquoi nos amitiés sont si précieuses.
Bah, la première chose, c'est que ça peut permettre de pirater finalement le modèle du couple hétéro. En fait déjà, dans notre société, il y a la possibilité de se paxer entre amis. Et ça, on l'oublie. Parce qu'on est vraiment dans une société qui valorise le modèle du couple pour organiser l'existence et l'ensemble du paysage social. Hein, souvent, on a cet escalator très traditionnel des relations. Hein, c'est l'entrée en monogamie, la cohabitation, la propriété, la parentalité. C'est ce qu'on appelle le concept d'amato-normativité d'Elisabeth Branck. En fait, c'est que dans notre société, ce qui est valorisé, c'est une relation exclusive, romantique et à long terme. Et on relègue toutes les autres formes d'affection. Alors, il faut faire attention parce que ces formes de liberté aussi, d'amitié, ça peut ne concerner que les femmes blanches privilégiées parce que les questions d'amitié sont aussi liées à la classe sociale. Pour certaines femmes, en fait, se mettre en couple, c'est un moyen de survie économique. Hein. On le voit un petit peu, cette notion de classe sociale, dans le documentaire Adolescente, en fait, où on a deux copines qui sont vraiment issues de mondes sociaux assez différents. Et... En fait, leur amitié, en grandissant, ne va pas résister à la pression de la classe sociale et surtout à la pression de ne plus avoir de quotidien partagé.
Et c'est ce qu'on voit, oui. Peut-être on ne l'a pas dit jusqu'à présent, c'est important le quotidien en amitié, en amour. Tu vois, la distance, ça se fait du bien, non?
Et je reviens à mes histoires de Pax entre amis. Déjà aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, tu avais des mariages de bestie, en fait. C'est ce qu'on appelait les mariages de Boston, où on avait des duos de femmes célibataires qui partageaient leur logement et leur vie. Alors ça pouvait être là aussi hein, des amitiés amoureuses ou juste aussi une forme autre. De vie, en fait.
Enfin, d'association, ouais. Ouais. J'imagine bien le côté working girl, les américaines.
Juste comme ça, je me permets de signaler qu'en 1925, là, une des toutes premières revues homosexuelles s'appelait d'ailleurs L'Amitié. On disait que c'est un moyen de pirater le modèle du couple hétéro, et aussi ça peut faire exister d'autres formes de coparentalité. On le voit, ça, c'est un moyen de faire circuler des savoirs, et... ça peut être aussi une façon d'exprimer un amour sans avoir le réflexe de propriétaire. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler c'est faire famille et surtout faire famille choisie. Hein.
C'est peut-être plus facile du coup que ouais. Faire famille pas choisie.
Ouais, c'est beaucoup plus facile et surtout c'est un moyen aussi pour la communauté LGBT de trouver des refuges, des espaces et des soutiens dans une société hétéronormée. Là, je pense à la série Pose. Où on a une mère, en fait celle qui dirige une maison de voguing, qui va prendre soin de ses enfants. Et elle utilise vraiment ce vocabulaire-là, alors qu'il n'y a aucun lien biologique entre eux. Adrienne Rich, elle souligne ce qu'elle appelle le continuum lesbien, c'est-à-dire que les femmes arrivent, malgré les injonctions au régime hétéronormé, à nouer des rapports intenses et privilégiés entre elles. Et c'est ce qu'on a vu finalement à travers l'histoire. Même si c'est en creux, elles arrivent à s'aménager des espaces qui les permettent de s'engager émotionnellement et logistiquement auprès d'autres femmes. Alors, c'est évidemment, hein, en face, il y a une résistance patriarcale très forte, mais elles y arrivent quand même. Et c'est pour ça qu'il faut finalement rendre visibles ces amitiés-là, parce que ça permet de reprendre possession de soi, d'envisager en fait d'autres formes d'associations sociales qui se passent du regard masculin et du patriarcat.
Du coup, s'associer, voilà, ça débouche sur une forme d'amitié, en fait.
Oui, c'est un moyen, en fait, de court-circuiter des dispositifs d'exploitation et voire même de contre-produire, puisqu'on a dit que la logique utilitaire, ça ne fonctionne pas avec l'amitié. Et là, on va reprendre un petit exemple historique. On va aller voir les béguines au XIIe siècle. Les béguines au XIIe siècle, ce sont des communautés autonomes du nord de l'Europe qui organisent une vie entre elles pour échapper au mariage, à la destinée de la maternité et au pouvoir de l'Église. Elles ont été jusqu'à plus d'un million. Elles étaient pieuses, mais elles ne prononçaient pas leurs vœux. Elles se dédiaient à l'étude, aux soins des malades. Alors évidemment, elles vont être pourchassées par l'Église. Mais elles ont réussi à monter des communautés en fait autonomes de femmes. Et c'est ce qu'on va voir avec ce très beau texte de Lydie Salvaire, Anne, mes sœurs Anne, qui souligne l'importance en fait de faire ces communautés.
Vous vous demandez qui peuvent bien être mes sœurs Anne.
Mes sœurs Anne sont des femmes qui n'hésitent pas à monter tout en haut d'une tour pour observer attentivement les parages.
Mes sœurs Anne sont des vigies.
Mes sœurs Anne sont des vigies qui admirent l'herbe qui verdoie, le soleil qui poudroie et les fleurs qui fleuroient, mais qui s'emploient, par la même occasion, à repérer d'où pourraient venir les secours pour barrer la route aux menaces.
Des vigies, mes sœurs Anne, des vigies aux aguets, des vigies qui ont l'œil, mes sœurs Anne, qui ont l'œil pour repérer les menaces visibles et les menaces invisibles, les menaces salopes et les moins salopes. Les menaces salopes, bien que séduisantes, les menaces salopes, bien que déguisées, les menaces habillées d'autorité, et celles dérisoires qui ne feraient pas peur à une mouche, les menaces des pauvres et celles des riches comme Barbe Bleue, vous connaissez l'histoire.
Des vigies, mes sœurs Anne, qui ont décidé de ne pas trembler devant Barbe Bleue et son pognon et ses maisons et sa vaisselle en or et ses carrosses dorées, et ses affaires importantes et ses relations haut placées, et à sa gueule à la Richard Burton, et à sa galanterie très française, et ses tristement célèbres chambres froides.
Je ne prétends pas que mes sœurs Anne sont plus héroïques que les autres, ou plus malines, ou plus ci, ou plus ça.
Je ne dis pas qu'elles sont mes sœurs converses, mes sœurs de charité, mes sœurs bénédictines ou mes sœurs filandières. Je dis juste que mes sœurs Anne savent décider, lorsqu'il le faut, de liguer leur ardeur, de liguer leur courage, sans demander l'autorisation d'aucun chef, ni d'aucun sponsor, ni d'aucune institution charitable, ni de personne. Eh bien, après cette petite lecture, on peut s'arrêter justement sur le mot sororité. Ça tombe à point, si ça désigne une communauté religieuse.
Oui, à la base, ça désigne une communauté religieuse de femmes. Et à partir du XVIe siècle, sororité va désigner une communauté de femmes ayant une relation, des liens de qualité ou un état de sœur. C'est-à-dire qu'on enlève le côté religieux. Ce mot, il va un peu disparaître du langage et il faudra attendre les années 70 pour qu'il soit usité de nouveau.
Dans les milieux féministes, clairement, parce que maintenant, en 2020, il arrive plus dans la population générale, mais je pense que les années 70, c'était bien cantonné.
Oui, évidemment, au mouvement féministe. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, on utilise le terme adelphité, qui a l'avantage de dépasser les questions de genre aussi. Parce que, comme on le soulignait là dans le texte « Anne, mes sœurs Anne », en fait, le fait de faire des liens d'amitié, ça permet aussi de faire contre-pouvoir pour se protéger, de devenir des copines de lutte pour reprendre le terrain, bouger les murs invisibles, lever des zones de silence ou travailler une écoute radicale et surtout de repousser les frontières. Il y a pas mal de séries qui montrent, ou de films, hein, qui montrent des bandes de filles ou des duos de filles qui vont reprendre la ville, en fait, parce qu'elles sont plusieurs, parce qu'elles se sentent fortes. Et là, Hannah Arendt nous le disait, l'amitié, c'est le laboratoire de la cité. Et en fait, parler ensemble, ça unit, ça forme une police, et ça permet d'être un groupe et de construire nos certitudes. Dans la littérature, dernièrement, il y a eu pas mal de bouquins qui racontent des bandes de filles qui se vengent, en fait, comme Les Orageuses de Marcia Burnier ou L'Assassin du Dimanche de Leslie Kaplan, qui se vengent, en fait, des violences patriarcales. Tu parlais des années 70, c'est l'Inde d'amitié, c'est aussi ce qui a permis l'émergence des mouvements féministes, notamment pour le MLAC, qui est un mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Le film Annie Colère montre bien ce climat amical. Il y a Agnès Varda aussi en 77 qui sort le film L'une chante et l'autre pas, où on voit ces liens, cette très belle amitié entre deux étudiantes pour avoir accès à plus de liberté. Et on va terminer presque là-dessus un petit peu. L'historienne Michèle Perrault, elle raconte que ces liens d'amitié ont beaucoup compté pour son parcours professionnel et pour même le fait qu'elle puisse s'émanciper. Elle est amie depuis plus de 70 ans avec Mona Ouzouf et Nicole Le Douarin. Et elles se sont rencontrées au lycée et elle dit que c'est ce qui nous a porté chacune pour avancer dans nos vies, en fait, cette amitié-là de plus de 70 ans. Alors, on peut mettre une toute petite limite quand même à ces amitiés dans les mouvements de lutte. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas créer un entre-soi. Parce que là aussi, hein, les liens d'amitié, et notamment les liens d'amitié entre femmes, ça n'échappe pas à d'autres logiques de domination.
Non, c'est sûr.
Il faut vraiment envisager ces liens d'amitié comme une éthique qui se décide et qui se travaille. Hein, c'est ce que nous dit Elle Books. Et que ça doit être pensé comme un horizon politique avec plein de nouveaux gestes finalement et un nouveau langage à inventer. Pour conclure, on peut dire qu'il faut investir activement et intentionnellement ces liens d'amitié quels qu'ils soient. Il faut vraiment réfléchir collectivement à ce qui les empêche pour permettre de les réinventer dans un autre rapport qui soit dégagé en fait de toute forme de domination, etc. C'est vrai que dans nos sociétés, on nous enseigne pas à prendre soin de nos amitiés ni à les cultiver. Et je pense que si on le fait, on va pouvoir mesurer le potentiel de nos amitiés, en fait, et comment elles peuvent être émancipatrices. Parce que ces amitiés-là, c'est des outils de puissance, c'est des forces de ralliement, et ça permet de faire bloc et de contrer en nombre, et surtout de rêver à une société à venir. Cette émission a été préparée avec nos puissantes amitiés d'Alice Rebaud, Utopie féministe sur nos écrans de Pauline Le Gall, S'engager en amitié de Camille Toffoli, Une histoire de l'amitié de Anne-Vincent Buffaut et les numéros de la revue Soro Ciné.
Merci Camille pour cette émission bande à part.
Merci Hélène, bonne soirée à tous et à toutes. Et moi je m'empresse de retrouver ma bande de potes dans le boudoir.
Et bonne nuit à vous.